Bonjour, soyez les bienvenus dans le 13-14, ici aux Herbiers en Vendée. Deux chiffres clés pour comprendre cette ville et pourquoi nous y sommes installés. Le taux de chômage, 4,1%, c'est le plus bas de France. Et dans cette commune de 16 000 habitants, il y a 18 agences d'intérim. Les Herbiers donc, pour parler d'une difficulté que rencontrent des milliers d'entreprises en France en ce moment, la pénurie de main d'œuvre. Nous sommes installés dans les chantiers Jeannot, groupe Beneteau. Vous avez entendu le petit signal d'alarme à l'instant, les bateaux de plaisance. Je vous décris les lieux dans un instant. Les Herbiers jusqu'à 14h donc pour parler aussi de ce modèle économique, l'usine à la campagne, l'industrie qui marche. Premier éclairage dans un instant. D'abord, les grands titres de l'actualité. C'est avec Marion Lourd à Paris. Bonjour Marion.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Le sport de proximité et l'énergie aussi au menu d'un nouveau déplacement présidentiel aujourd'hui. Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis laisse entrevoir entre autres un geste du gouvernement sur le prix du carburant. Dans l'actualité aussi cette question, les personnes éligibles à un rappel du vaccin Covid risquent-elles de perdre leur passe sanitaire si elles fuient cette troisième piqûre? La ministre du Travail ne l'exclut pas. Journée nationale pour la qualité de l'air, l'État doit réparer ses engagements non tenu sur les émissions de gaz à effet de serre. Décision de justice aujourd'hui, mais pas de sanctions à la clé. À la une encore, le suspect de l'attaque mortelle en Norvège était un converti à l'islam, sans doute radicalisé. Nous ferons son portrait. Et puis une ascension mythique en perspective. Le Tour de France cycliste retrouvera l'Alpe d'Huez le 14 juillet prochain. On vous guide sur le trajet à la fin du journal.
À la fin de ce 13-14 ici aux Herbiers, une histoire étonnante, celle du cinéma de la ville, tenu depuis plus de 20 ans par des bénévoles. Ça marche tellement bien qu'ils vont ouvrir un complexe de 5 salles. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et donc bienvenue sur les chantiers Jeannot, groupe Beneteau, le leader mondial des navires de plaisance, l'une des entreprises emblématiques du dynamisme économique de cette région des Herbiers en Vendée. Nous sommes au cœur du site qui fait 40 hectares en tout, là où sont produits et assemblés les bateaux. J'ai près de moi, dans le hangar où nous sommes installés, des dizaines de coques et ponts alignés les uns à côté des autres sur les chaînes de production, le balai des ouvriers, des chariots élévateurs, des camions qui viennent livrer les pièces. Et à côté de moi, le directeur de l'usine, le directeur du site, David Slagowski, bonjour.
Bonjour Bruno Duvic.
Combien de salariés ici?
Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 900 salariés sur le site des Herbiers.
Plus de 900, près d'un millier. Combien d'intérimaires sur ces 900?
Nous avons actuellement 220 intérimaires et nous continuons à recruter en intérim. Et
on va en parler en détail. Je pense d'abord que le reportage de Maxime Debs qui nous accompagne ici aux Herbiers va vous intéresser, David Slagowski. L'un des écueils que rencontrent des milliers d'entreprises en France, vous nous direz si c'est votre cas, cela va des restaurateurs aux coiffeurs en passant par l'industrie, eh bien c'est la pénurie de main d'œuvre. Alors Maxime, dans cette région où le travail ne manque pas, les 18 agences d'intérim ont un mal fou à satisfaire la demande des entreprises. Il n'y a pas de main d'œuvre disponible, Maxime.
Ouais, c'est ce que j'ai pu constater en rendant visite à Cathy Rézeau, un responsable de l'agence Synergie, tout près de l'église des Herbiers, où règne en ce moment un silence de cathédrale.
C'est vraiment une agence ici où d'habitude on n'arrive pas à se parler. Et là...
Là, tout le monde est au boulot.
Tout le monde est au boulot.
Une agence d'intérim au chômage technique, ou presque, un comble. On s'est dit que c'était pas normal, alors on a voulu comparer. On a traversé la rue, pour reprendre une expression bien connue, autre agence. Mais là aussi, on a trouvé Julie à l'accueil un peu démunie.
Alors, c'est calme en termes d'inscription de candidats. Par contre, on a beaucoup de commandes des clients, donc des entreprises du secteur. Et aujourd'hui, il y a presque 50% des commandes qu'on peut pas honorer parce qu'on n'a pas les candidats. Donc, on est obligé d'aller faire des opérations de tractage, et puis on fait du sourcing, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les bases de données, même nationales, en fait, on va aller gratter dessus pour aller trouver les gens, quoi. Moi, je connais personnellement pas un seul chômeur dans mon entourage, et c'est le cas de beaucoup de monde. Donc c'est qu'il y a vraiment personne qui manque de travail dans le coin.
Agence d'intérim recherche candidat désespérément. Alors on a fini par en croiser un potentiel, mais il était déjà pris. Anthony, 36 ans, peintre en bâtiment. Il était avant en CDI et l'état du marché ici étant ce qu'il est aujourd'hui, il est très heureux dans son statut d'intérimaire.
Oui, je suis intérimaire par choix, clairement. Mais il y a toujours cette question, tu signes quand ton CDI ou quoi qu'est-ce? Et c'est vrai que ouais, j'ai un peu le privilège de choisir un peu où je veux aller, quoi.
En charge de son suivi, Morgane Renoux de l'agence Polygone reconnaît ici les gens savent ce qu'ils veulent ou ne veulent plus. La conjoncture locale s'y prête, obligeant les entreprises à redoubler d'efforts pour attirer les bons candidats.
Oui, Totalement. Aujourd'hui, les intérimaires ont plus de facilité à nous demander des augmentations, à essayer d'avoir le métier ou l'entreprise qui sera la plus convenable pour eux et qui amène les entreprises à se soumettre, entre guillemets, à des choses qu'ils n'auraient pas forcément acceptées il y a un an.
Un an où le Covid a aussi rebattu les cartes, peut-être ici un peu plus qu'ailleurs. La vie perso, Bruno, prend chez certains de plus en plus le pas sur le reste.
Alors, David Slagowski, vous qui dirigez ce site ici, cette usine Jeannot, on est juché sur un des bateaux quasiment terminé. On est presque à 4 mètres de hauteur en comptant la cale. C'est un prestige. On parle de produits de luxe, hein, 2,5 millions à 3 millions d'euros pour les bateaux les plus chers. Combien de corps de métier travaillent à la fabrication d'un bateau comme ça?
Alors aujourd'hui, sur le site des Herbiers, on regroupe à peu près une cinquantaine de corps de métier pour assembler un bateau. Ça va du mécanicien, de l'électricien, du plombier, du menuisier, en fait quasiment tous les corps de métier.
50 corps de métier. Mmh. Est-ce que, on vient d'entendre ce que nous racontait Maxime Debs, vous manquez de main d'œuvre et est-ce que c'est à un point où ça grippe la production?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a encore 50 postes ouverts qu'on cherche à recruter. Donc on est obligé de s'adapter, de se réorganiser, de trouver des solutions. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est un combat de tous les jours, mais oui, c'est quelque chose qui nous pose problème. Oui.
Et ça ralentit la production?
Alors, on s'est organisé pour faire en sorte que non. On a adapté notre plan de production par rapport à ça, mais on recherche activement encore beaucoup de personnes.
Vous allez augmenter les salaires pour attirer du monde?
Ça peut être. C'est une question aujourd'hui qui est difficile, mais.
C'est une question posée.
Ben, aujourd'hui, non, c'est pas une question posée. On continue sur notre modèle qui fonctionne bien. On a plutôt des rémunérations attractives. Donc ouais. Aujourd'hui, c'est pas ça le problème. C'est vraiment la pénurie de main d'œuvre sur le marché d'emploi, sur le bassin d'emploi.
Et donc, c'est une question de formation autant que de salaire de votre point de vue.
Oui, alors la formation effectivement est une problématique, mais aujourd'hui on est dans un métier où il n'y a pas de centre de formation pour fabriquer des bateaux, donc on a aussi l'avantage quelque part de former nous-mêmes nos salariés.
On en parlera en détail au fil de cette émission, on se retrouve dans une petite vingtaine de minutes ici aux Herbiers pour parler aussi du modèle économique, ce 4,1% de chômage, on peut faire de l'industrie made in France. Pour l'instant, l'actualité de ce jeudi 14 octobre, c'est avec vous Marion Lourd.
Le sport représente moins d'1% du budget français à 3 ans des Jeux Olympiques de Paris. C'est pourtant bien le thème choisi par Emmanuel Macron pour un de ses nombreux déplacements. Le président de la République est en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, Tremblay en France, puis le chantier du village olympique. Vous suivez ce périple sportif pour France Inter. Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État a parlé équipement sportif de proximité.
Oui, il est venu présenter un plan pour rapprocher les Français et le sport, mettre le sport au coin de la rue de chaque citoyen. Emmanuel Macron a en effet annoncé la création de 5000 équipements sportifs, 1 millier de city-stades, autant de dojos, des bassins amovibles aussi, des infrastructures plus petites, plus proches des gens pour combler les manques dans les territoires. Emmanuel Macron qui veut accélérer à 3 ans des Jeux Olympiques de Paris, mais qui voit aussi un peu plus loin.
C'est un élément important de ce qu'on appelle l'héritage. C'est-à-dire qu'on se prépare tous pour les Jeux Olympiques, mais les élus qui sont là sur le terrain le savent. Ce qui compte, c'est aussi le sport au cœur du projet de la nation. Nos jeunes, nos pratiquants, simplement sont confrontés à un manque d'infrastructures, avec aussi une injustice, c'est que ce sont souvent dans les territoires qui sont les plus pauvres, les plus déshérités, que ces infrastructures manquent.
Et elles seront donc ces infrastructures ciblées dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales aussi. L'État qui va débloquer 200 millions d'euros, la moitié l'année prochaine. Les premiers projets vont être débloqués très vite, dès le mois prochain. Les demandes aux collectivités pourront être formulées à l'Agence nationale du sport, qui va aussi bénéficier de 50 millions d'euros pour la rénovation thermique de bâtiments existants.
Maxime Fayolle pour France Inter avec les moyens techniques de Georges Thau. Emmanuel Macron qui n'a pas seulement parlé sport lors de ce déplacement, mais aussi énergie. Le gouvernement devra compléter sa réponse face à la hausse des prix, estime Emmanuel Macron. Le chef de l'État évoque une action de court terme d'accompagnement des ménages en plus des discussions en cours au niveau européen. Le prix du gaz est déjà bloqué jusqu'à avril prochain, mais celui du carburant bat des records. La justice à nouveau appelle l'État à réparer ses engagements non tenus en matière de réduction des gaz à effet de serre et les préjudices que cela engendre. Cette fois, le jugement vient du tribunal administratif administrative de Paris. Il s'agit toujours de ce que l'on appelle l'affaire du siècle, initiée par 4 organisations non gouvernementales. Les juges donnent à l'État jusqu'au 31 décembre pour agir, mais Étienne Monin, il n'y a pas d'astreinte financière prévue pour l'instant.
C'est une avancée dans le domaine environnemental, mais le tribunal ne pose pas de contraintes, ni financières, ni matérielles pour encadrer l'action du gouvernement. Ce que le tribunal a établi dans un premier jugement, c'est que le gouvernement a commis une faute en ne respectant pas ses propres objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans son premier budget carbone, qui est la feuille de route, avec un surplus d'émissions estimé à 15 millions de tonnes de CO2. Le tribunal a aussi estimé qu'il y avait un préjudice écologique pour lequel l'État était partiellement responsable. Ce qu'il demande aujourd'hui au Premier ministre, aux ministres concernés, c'est de prendre des mesures sectorielles pour réparer ce préjudice et prévenir l'aggravation des dommages au plus tard en décembre 2022, donc dans une grosse année. Mais le tribunal ne pose pas de contraintes. Le choix des mesures relève de la libre appréciation du gouvernement et il estime qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. L'État est seulement condamné à verser 2000 euros aux 4 associations pour compenser les frais de justice.
Et en cette journée pourtant de la qualité de l'air, attention aux particules fines en Île-de-France aujourd'hui. Les conducteurs sont appelés à lever le pied, jour choisi aussi par l'UNICEF et le réseau Action Climat pour publier ce chiffre alarmant. Plus de 3 enfants français sur 4 respirent un air pollué et néfaste pour leur santé, phénomène potentiellement accentué par la pauvreté.
Au chapitre santé encore, Marion, à 13h11 sur France Inter, un coup de pression pour les Français concernés par la 3e dose de vaccin anti-Covid.
Il vient de la ministre du Travail, mais le ministère de la Santé sur la même ligne, France Inter a pu le confirmer. Elisabeth Borne n'exclut pas la perte du pass sanitaire pour ceux qui refuseraient la 3e injection. Aujourd'hui, ce rappel concerne 18 millions de plus de 65 ans et de personnes à risque, comme les diabétiques, et environ 4 millions de soignants et de personnes immunodéprimées. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
La campagne pour la 3e dose a démarré en septembre, mais c'est vrai qu'elle avance à pas compter.
Oui, ils sont aujourd'hui environ 1,7 million à être triplement vaccinés. C'est mieux que nos voisins européens, mais pas suffisant, estime le ministère de la Santé, qui rappelle qu'un peu plus de 4 millions de personnes environ peuvent réellement prétendre à la 3e dose à l'heure où nous parlons. Pour rappel, il faut respecter un délai d'au moins 6 mois entre la 2e et la 3e injection. L'inquiétude pour les autorités, c'est que les taux de vaccination ne sont pas assez suffisants pour garantir dans la durée le niveau de protection immunitaire. En bref, on veut éviter de voir affluer des cas graves dans les hôpitaux. Dans les centres de vaccination, de nombreux rendez-vous restent non pourvus. De grandes quantités de vaccins sont disponibles. Une campagne de rappel au tempo moderato, à laquelle les autorités sanitaires aimeraient bien donner un coup de fouet. Du côté des cabinets médicaux, on s'attend à une hausse de la vaccination à la fin du mois, puisqu'à partir du 26 octobre, les patients pourront coupler leur rappel anti-Covid avec le vaccin contre la grippe.
Et est-ce l'effet du vaccin, la Covid en tout cas, continue de reculer chez nous? Le président du conseil scientifique se dit même assez optimiste aujourd'hui. Jean-François Delfraissy plaide tout de même pour un maintien des gestes barrières jusqu'au printemps prochain. Pendant ce temps, les écoliers français se démasquent toujours plus, 12 nouveaux départements concernés. L'accessoire redevient en revanche obligatoire en Lozère où un foyer d'infection a été détecté. Au même moment, d'autres pays connaissent une véritable flambée des contaminations. Au Royaume-Uni, qui vit avec le virus et sans restriction depuis l'été, près de 43 000 nouveaux cas de Covid constatés en 24 heures. La Russie, elle, compte plus de 31 000 nouveaux malades en une journée, 986 morts. Le système de santé est sous tension, reconnaît le gouvernement russe.
En Norvège, à présent, Marion, la piste terroriste est de plus en plus probable après l'attaque d'hier.
Attaque à l'arc hier soir qui a fait 5 morts à Kongsberg, sud-est du pays. Benjamin Illy, le profil du suspect arrêté durant la nuit, alimente les soupçons des policiers.
Un Danois, 37 ans, converti à l'islam et qui avait suscité précédemment des craintes de radicalisation selon un responsable de la police norvégienne. Il ajoute que ces craintes ont donné lieu à un suivi en 2020. L'individu a été interrogé par la police. Il doit être présenté à un juge en vue de son placement en détention provisoire. Les autorités poursuivent leur enquête pour confirmer qu'il a bien agi seul. Cet homme résidait là où s'est déroulé le drame, à Kongsberg, une petite ville d'environ 25 000 habitants à 80 km d'Oslo. Une ville où vit une communauté tout à fait ordinaire, pour reprendre les mots de la maire de la commune. Choqué par cette tragédie, cet assaillant armé d'un arc et de flèches de compétition ciblant les passants mais aussi les clients d'un supermarché. Les autorités ont confirmé que l'agresseur avait utilisé d'autres armes, sans dire lesquelles, et qu'il avait réussi à échapper à une première confrontation avec la police avant d'être interpellé 35 minutes après le début de l'attaque. La police norvégienne n'exclut pas un acte terroriste, mais reste toujours très prudente sur les raisons qui ont poussé cet homme à passer à l'acte.
Lui était mort assassiné par un terroriste islamiste dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait. Un an après, les hommages à Samuel Paty se préparent dans les écoles. Ils démarreront demain et toute perturbation sera sanctionnée, prévient aujourd'hui le ministre de l'Éducation. Ce soir, le téléphone sonne, donne la parole au professeur sur France Inter. La question, comment enseigner après la mort de Samuel Paty? Que s'est-il passé à Agde, dans l'Hérault? À ce stade, toutes les pistes restent ouvertes. Une femme de 77 ans a été retrouvée hier soir chez elle, décapitée. C'est son fils qui a donné l'alerte, inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Les policiers ont retrouvé des traces de lutte dans l'appartement, du ruban adhésif ensanglanté et des gants en latex. La campagne présidentielle pour 2022 comptera ce soir une nouvelle candidate officielle. Anne Hidalgo devrait sans surprise être investie par le Parti Socialiste. La maire de Paris n'a face à elle que le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Et dans cette campagne, quelques grands thèmes émergent déjà. La santé, la sécurité, le pouvoir d'achat peut-être. Et c'est nouveau, le temps de travail. De retour dans le débat 20 ans après la mise en place des 35 heures. Élodie Forest, c'est le président lui-même qui a relancé ce sujet avec son discours sur le grand plan d'investissement. Emmanuel Macron disait que les Français ne travaillaient pas assez.
Plus de 20 ans après l'entrée en vigueur des 35 heures, c'est la semaine de 32 heures qui agite les débats à gauche. Défendu de longue date par Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi dans le programme du communiste Fabien Roussel. Chez les écologistes, la semaine de 4 jours était l'un des totems de Sandrine Rousseau, pas de Yannick Jadot, beaucoup plus prudent, qui propose simplement une convention citoyenne sur les temps de travail et la santé au travail. Repenser le temps de travail, une évidence en revanche pour Anne Hidalgo, sans l'inscrire dans la loi mais en impulsant des négociations de branches ou interprofessionnelles. À gauche, seul Arnaud Montebourg affiche une vraie différence, préférant augmenter les salaires que de réduire la durée travaillée. À droite, on veut davantage libérer le travail. C'est l'un des slogans de Xavier Bertrand qui propose une suppression des impôts et des charges sociales au-delà des 35 heures. Le patron des Hauts-de-France qui n'est pas hostile à un retour aux 39 heures. Un allongement que Marine Le Pen voulait aussi rendre possible en 2017 en passant par des accords de branche. Pour 2022, la candidate du RN n'a pas encore fait de proposition.
Les trois migrants tués mardi matin sur une voie ferrée près de Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque essayaient d'échapper à d'éventuels contrôles, selon le procureur de Bayonne. Les trois hommes étaient de nationalité algérienne. C'est le quatrième grièvement blessé qui a donné cette explication aux enquêteurs. L'explosion du port de Beyrouth en août 2020 n'en finit pas d'attiser les tensions au Liban. 4 personnes au moins sont mortes ce matin dans une manifestation contre le juge en charge de l'enquête. Enquête sur le sujet. En France, plus jamais de match de football le 5 mai, mesure adoptée par l'Assemblée nationale en souvenir de la catastrophe du stade de Furiani. Le 5 mai 1992, l'effondrement d'une tribune provisoire avait fait 19 morts et 2300 blessés. Après la période de crise sanitaire aiguë, le Tour de France devrait retrouver ses marques l'an prochain. Les organisateurs dévoilaient ce matin le parcours de la 109e édition au Palais des Congrès à Paris, 24 au 31 juillet pour les femmes au départ de Paris, 1er au 24 pour les hommes qui s'élanceront du Danemark. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Marion.
On va retrouver quelques lieux mythiques de la Grande Boucle.
Oui, alors si je vous dis qu'il y aura de la montagne, vous n'allez pas non plus être surprise, mais c'est une montagne qui va rappeler de grands moments du Tour à de nombreux fans, avec l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets mythiques qui reviennent enfin après 4 ans d'absence. Grand retour aussi de l'ascension d'Otacam dans les Pyrénées. Citons également l'Altiport de Peyragudes, le col du Glandon à 2642 mètres d'altitude. En tout, 5 étapes vont se conclure au sommet, mais attention, la course pourrait bien en partie se jouer dès la première semaine, avertit Christian Prudhomme, le patron du Tour.
Sur les ponts géants du Danemark dès le deuxième jour, avec 18 des 20 derniers kilomètres au-dessus de la mer Baltique, sur les pavés avant Arambert, avec une première semaine qui a été conçue, oui, pour un type de coureur particulier. Il y a un trio de puncheurs d'exception qui s'appelle Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, Wout Van Aert, le Belge, Julien Alaphilippe, notre double champion du monde. Le terrain est là pour ça.
Le terrain est là pour voir du spectacle avec, vous l'avez compris, Julien Alaphilippe, déjà très attendu, le double champion du monde. Attention tout de même, l'avant-dernière étape est un contre-la-montre de 40 km entre La Capelle-Marival et Rocamadour. Ça va être génial pour les images, idéal aussi pour un nouveau triomphe de Tadej Pogacar, le Slovène, déjà double vainqueur.
Et Fanny Lechevestrier au Palais des Congrès pour Inter avec les moyens techniques de Martin Troadec. Pour rappel, le vainqueur masculin du Tour empochera 500 000 euros à lui tout seul. Les femmes, elles, devront se partager en tout 250 000 euros de prix. Et parmi ces communes que vont traverser les cyclistes du Tour, peut-être y en a-t-il qui ont des noms à rallonge, des noms bien problématiques ces jours-ci pour les habitants qui essayent de renouveler leur carte d'identité. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Dans la Somme, notamment, l'émission de certains de ces documents est bloquée et ce n'est pas une question de demandes trop nombreuses.
Eh bien non, plutôt à cause de ces fameux noms de communes trop longs. Exemple concret, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, village de 1300 habitants dans la Somme. L'un des administrés doit passer le code de la route, mais il n'a plus de carte d'identité valide. Sa demande de renouvellement est bloquée en ce moment dans la commune d'à côté, raconte Reynald Boulanger, le maire de Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly.
Nous ne sommes pas commune référente pour gérer les dossiers de carte d'identité. C'est la commune voisine de E, qui est un des noms les moins longs de France, puisque c'est EU, quand cette personne s'est adressée à eux. Ils se sont aperçus très rapidement que c'était impossible compte tenu de la longueur du nom de la commune de résidence de cette personne.
Trop de lettres, pas assez de cases prévues pour le format carte vitale ou carte bancaire, comme vous voulez. Le service du ministère de l'Intérieur sont au courant, ne pensent pas apporter malgré tout une solution technique avant plusieurs mois, mais l'administré aura quand même une carte provisoire avec un nom de commune raccourci à Saint-Quentin-la-Motte.
C'est un peu dommage, mais c'est provisoire. Voilà. On pourrait effectivement maintenant valider le nom de Saint-Quentin-la-Motte tout court, mais ça poserait un problème dans le sens où les habitants de Saint-Quentin-la-Motte sont les Croisiens qui se rapportent à la fin du nom actuel qui est la Croix-au-Bailly.
Voilà, pas question de perdre une partie de l'histoire de la commune qui n'est pas la seule en France pour les administrés, dont les administrés plutôt peinent à faire renouveler leur carte d'identité. Près de 80 communes en France ont des noms à rallonge. Montigny, Mornay, Villeneuve-sur-Vingeanne en Côte d'Or, Beaujeu, Saint-Vallier, Pierre-Jeu et Quitteur en Haute-Saône, Saint-Germain de Talvande, Lalande, Vaumont dans le Calvados, que le dernier ferme la porte.
Et on les salue tous, hein, tous les habitants de ces communes. Merci à vous, Béatrice Duguay. Et puis le fromage et la bière étaient déjà au menu il y a 2700 ans. La preuve, ces excréments humains retrouvés à Hallstatt, dans une mine de sel des Alpes autrichiennes, et analysés par des chercheurs autrichiens. Selon les résultats publiés dans la revue Current Biology cette semaine, les mineurs utilisaient la fermentation de manière intentionnel pour produire, entre autres, du fromage bleu. À l'heure du déjeuner, longue vie donc au fromage affiné.
Attention événement. Alma de Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel de littérature, est enfin disponible en poche. Alma nous emmène à l'île Maurice sur les traces du dodo, cet oiseau disparu, et d'une famille que le destin tragique a coupée en deux. Dans ce grand roman, Le Clézio rend un hommage bouleversant à cette culture métissée qui survit dans l'océan Indien. Alma de Jean-Marie Le Clézio. Maintenant en folio.
Vous êtes propriétaire d'un logement, vous souhaitez louer solidaire et en toute sécurité? Solia, solidaire pour l'habitat, vous propose de louer votre bien à une famille aux revenus modestes et d'assurer sa gestion locative. En plus, vos loyers sont garantis et vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 85% sur vos revenus locatifs.
Solia est un réseau associatif agréé par l'État. Contactez-nous au 0801 01 02 03, service et appel gratuit, ou sur le site imo.solia.fr.
France Inter M.
Machine de cirque à la Scala Paris jusqu'au 1er janvier. Machine de cirque, dynamique compagnie de Québec, enfin de retour à Paris après une tournée mondiale triomphale. Tantôt comique, tantôt nostalgique, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie et même la serviette de bain. Un régal de voltige, de musique, de jonglage, de rire à partager en famille. Machine de cirque, actuellement à la Scala Paris, un spectacle France Inter.
Et à 13h23 sur Inter, direction à nouveau les Herbiers, en Vendée, la ville sans chômage ou presque, et son usine de bateaux où vous faites escale, Bruno Duvic.
Absolument, et où il fait très beau le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
très beaux herbiers et très beaux un peu partout, j'ai l'impression, Elodie Calac.
Ah oui, beaucoup de soleil aujourd'hui. Alors, on trouve quelques nuages du côté de la Provence, de la Côte d'Azur ou alors sur le sud des Alpes, mais vraiment sans conséquence. Des nuages un petit peu plus nombreux quand même près des frontières du Nord. Là, ils ont tendance à s'éloigner au fil des heures. Ils sont poussés par un vent de sud-ouest. Il y a aussi du vent d'autan, de l'eau d'eau midi toulousain. Et puis sur la Corse, là, c'est un vent de nord-est qui se fait sentir jusqu'à 60 km à l'heure. On est autour des moyennes de saison pour les températures. Ça monte un petit peu par rapport à hier. 15 degrés à Mulhouse, à Lyon, 17 à Rouen, Rennes, Paris et Châteauroux, 18 à La Rochelle comme aux Herbiers, et 21 degrés à Bayonne, à Montauban et à Toulon. Et puis demain, on aura un soleil encore bien présent, mais plus voilé tout de même. Et puis une perturbation tentera sa chance entre la Manche et les frontières du Nord, mais elle apportera essentiellement des nuages.
Mais là, dans les hangars de Jeannot Beneteau, il faut une petite laine hein, quand même pour tenir le coup. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et de retour ici au sein des chantiers Jeannot, groupe Beneteau, les herbiers vendaient un millier de salariés, un peu moins 900, nous disait le directeur de l'usine tout à l'heure, dont plus de 200 intérimaires. Un à deux bateaux sortent d'ici chaque jour. Des dizaines sont en cours de fabrication. C'est très impressionnant. Alors une petite visite du site. Je m'y suis promené ce matin. Pour vous décrire un peu les lieux, on parle d'un site parking, bureau d'études compris, de 35 à 40 hectares. Là, nous sommes au cœur d'un des hangars. On parle de hangars de plusieurs centaines de mètres de long où on fabrique et on assemble les bateaux qui sont alignés les uns à côté des autres. D'abord la coque, puis le pont, puis l'assemblage. Et puis dans ces immenses hangars, il y a aussi tout ce qui va aller à l'intérieur des bateaux, l'électronique, les pièces de moteur qui sont assemblées ici et même l'électroménager, les matelas qui vont fournir ces bateaux. Voilà, c'est ici que tout ça se passe. Il y a une petite odeur de chlore parce que un peu plus bas, l'étage d'en dessous, il y a les bassins de contrôle qualité finition, des piscines en quelque sorte, et ça sent le chlore. On va s'approcher là, on est monté sur un des bateaux en cours de construction, on va s'approcher de Johanna qui est une des salariées du groupe Jeannot. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Je fais des reprises menuiserie dans le bateau, des reprises finition. Donc ça va être des choses réparation cire sur des rayures ou des coups sur le bois avec des finitions vernis par-dessus. Il y a beaucoup de choses. Ouais.
Comment est-ce que vous êtes arrivé ici ?
Je suis arrivé en intérim, ici. J'avais déjà une formation de menuisier à la base. Ouais. Et du coup, j'ai appris après sur le tas, quoi. Enfin, avec les formations de l'entreprise et puis du coup avec mes collègues.
On est dans une région ici, Johanna, où on n'a vraiment pas d'inquiétude pour le travail. On sait qu'on trouvera un travail ici dans cette ville où le taux de chômage est de 4%. Vous, par exemple, qui êtes encore jeune, vous n'avez jamais eu d'inquiétude en vous disant « je ne trouverai jamais de travail ».
Moi, j'habite aux Herbiers, donc forcément, on a un peu le choix, on va dire. Ouais. Si je devais partir un jour, c'est vrai que du coup, il y a du boulot partout autour, quoi.
Bon, on vous laisse travailler. Merci. Okay.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Et on continue notre déambulation sur ce site des chantiers Jeannot. On voit des gens qui bichonnent les bateaux, qui passent à une lampe pour vérifier les finitions. Et je suis avec Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, vous, ici sur ce chantier précisément ?
Alors moi, je fais du montage plomberie, électricité, du dépannage parfois.
Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?
Ça fait 23 ans.
Et vous n'avez jamais eu envie de partir ?
Il m'est arrivé d'envisager de partir, mais je me dis, est-ce que ce sera mieux ailleurs ? Donc, pour l'instant, non, je suis bien ici et je pense y rester encore un peu. Ouais.
Dans une région où il y a beaucoup d'industries et où on cherche des compétences, quelqu'un comme vous, ça doit être quelqu'un de recherché, j'imagine.
Ben déjà, sur la chaîne, je pense qu'ils n'ont déjà pas envie de me laisser partir, même sur une autre chaîne, parce qu'ils savent mes compétences et ouais, on devient des espèces un peu rares, on va dire.
Merci Pascal.
Merci à vous.
Voilà pour ces quelques notes de visite. Et sur le site, on fabrique aussi les menuiseries, le polyester, évidemment indispensable à la fabrication des produits maison. Tout cela donc aux Herbiers, la ville au taux de chômage le plus bas de France, 4%, mais dont les entreprises, industries et grandes entreprises sont nombreuses. Beneteau, mais aussi le groupe Liebo qui fabrique des fenêtres et façades métalliques. La boulangère qui fait de la viennoiserie, vous l'aurez deviné. Un peu plus au sud-est, à Pouzauges, il y a Fleury Michon. Comment toutes ces grandes entreprises composent-elles avec la pénurie de main-d'œuvre? Bonjour Calixte de la Martinière.
Bonjour Bruno Devic.
Vous êtes le directeur des ressources humaines du groupe Beneteau. 7600 salariés à travers le monde. Il y en a aux États-Unis, en Pologne, en Italie, en Chine. Il y a 7 sites en Vendée. Je crois que c'est 3500 salariés, c'est ça en Vendée ?
En Vendée.
Pénurie de main-d'œuvre ?
Pénurie de main-d'œuvre. On a
déjà recruté depuis le début de l'année plus de 500 intérimaires dans nos sites vendéens. Ouais. Et on a encore 300 postes à pourvoir d'ici mars 2022.
Et pourquoi vous n'arrivez pas à les pourvoir ?
On a une difficulté qui est particulièrement exacerbée dans certains bassins d'emploi, comme ici aux Herbiers, ouais, où il y a très peu de taux de chômage. Ouais. Et d'une manière générale, ce sont des métiers sur lesquels il y a très peu de formation initiale, pas de formation académique. Et donc, on doit être capable de recruter très largement des gens qui sont motivés, auxquels on va apprendre le métier. Et pour ça, il faut qu'on fasse découvrir ce que c'est d'être un constructeur nautique. Et c'est pour ça qu'on ouvre nos usines, notamment dans des journées portes ouvertes, ouais, pour faire découvrir le plus largement possible ce que c'est que ce métier de constructeur nautique.
Et vous faites de la formation interne, on va détailler cela. Bonjour Émeric Petit.
Bonjour Bruno de Vilquier.
Responsable des RH de Général Transmission. Alors, présentez-nous votre entreprise, parce qu'il n'y a pas que Microsoft qui naît dans un garage, si j'ai bien compris.
Non, effectivement, alors Général Transmission est un petit peu moins connu que le groupe Beneteau. En quelques mots, donc le groupe trouve ses origines sur le territoire. Ouais. L'entreprise a été créée il y a maintenant 30 ans par Robert Blanchard et son épouse. Donc ils ont commencé dans leur garage. Aujourd'hui,
c'est des transmissions de tondeuses, il faut dire ce que c'est. Le cœur de métier, c'est voilà, et vous êtes le leader mondial.
On est leader mondial, voilà, sur le marché des solutions traction pour le matériel d'espace vert.
Combien de salariés ?
Alors 150 en France et puis 1200 au niveau mondial.
Donc, avec Mexique,
États-Unis et deux unités en Chine.
Vous aussi, vous avez le même problème que Calix de la Martinière, c'est-à-dire pas de formation initiale sur des métiers très spécifiques et donc la difficulté à trouver.
Alors nous, sur le site des Herbiers, en fait, on a une unité de production où là effectivement on va former les salariés qui arrivent dans nos ateliers. On recherche, et là c'est là que ça devient plus compliqué, on a un centre de recherche et développement sur le site des Herbiers où il y a à peu près 40 personnes. Nos gammes de produits évoluent, notre marché évolue actuellement. On électrifie toutes nos gammes de produits et ça nécessite de la maîtrise de nouvelles compétences, maîtriser les nouvelles technologies, donc en lien avec l'électronique, les objets connectés, l'IT, et c'est là que ça bloque effectivement.
Ça bloque. Ouais. Bonjour Laurent Soulard.
Bonjour Bruno.
Troisième invité pour la première partie de cette émission, directeur de l'agence Pôle emploi des Herbiers. J'imagine que vous êtes un directeur d'agence un peu moins stressé que d'autres. Que peut le monsieur de Pôle emploi pour les deux personnes qui sont à vos côtés ?
Moins stressé que mes collègues, pas forcément, vous savez. Ici, Pôle emploi est au cœur d'un écosystème. Oui. Nous avons une stratégie. Moi, ce que je porte avec mon équipe, c'est positionner le Pôle emploi au service du développement économique du territoire, au service des entreprises et des demandeurs d'emploi du territoire. C'est la stratégie que nous portons, et particulièrement en activant les solutions, les leviers qui sont à notre disposition.
Et alors, oui, quand Émeric Petit ou Calix de la Martinière viennent vous voir en disant « j'ai besoin de telles compétences ultra précises qui n'existent pas dans les CAP, les BEP, les lycées pro », qu'est-ce que vous faites ?
Un des leviers que nous activons, c'est effectivement le levier formation. Ouais. Nous sommes en situation de plein emploi, ou quasiment de plein emploi, avec une forte tension sur les compétences. Pour autant, si on prend un peu de hauteur, sur le territoire d'intervention, périmètre d'intervention de l'Agence pour l'emploi des Herbiers, ce sont 6 500 demandeurs d'emploi en tendance qui restent inscrits. Pour l'essentiel, des demandeurs d'emploi qui déclarent de l'activité chaque mois, alternant des périodes en intérim, en CDD, des périodes de recherche d'emploi. Et c'est bien notre sujet d'accompagner ces personnes vers l'emploi durable, les aider à se qualifier, à se requalifier pour accéder à l'emploi. Et nous travaillons de concert avec les entreprises qui sont aujourd'hui sur votre plateau.
Est-ce que on arrive à faire venir en Vendée des salariés d'autres régions ?
Oui, bien sûr.
Il y a eu
sûr.
Une expérience tentée, je crois, avec des salariés du Nord et qui a un peu avorté.
Bien sûr, la mobilité résidentielle, c'est un peu le terme que l'on emploie, un peu savant. L'idée de sourcer, d'accueillir des candidats hors territoire est un des leviers, effectivement, pour répondre aux besoins en compétences sur le territoire. Moi, je n'ai pas de sujet, Pôle emploi n'a pas de sujet autour de ça. D'ailleurs, nous diffusons, vous pouvez faire l'exercice en direct, en vous connectant sur le site pôleemploi.fr et sur le levier offre, saisir les Herbiers, 10 km, dans un rayon de 10 km autour des Herbiers. Aujourd'hui, à cet instant, vous avez plus de 2000 offres d'emploi à pourvoir qui sont diffusées.
Mais la question du logement et du transport pour attirer ici sont cruciales ?
Oui, effectivement, on est sur un modèle de développement qui dépasse uniquement le problème des compétences ou du recrutement, du logement, de l'offre de santé. Mais ça, Madame le maire, tout à l'heure, pourra peut-être mieux vous en parler.
On détaillera ça. Calix de la Martinière, du coup, Beneteau est devenu un institut de formation en tant que tel. C'est-à-dire que vous avez des formations en interne. Et je pense que c'est pareil chez Général Transmission.
Absolument. On a mis en place des centres de formation en interne qui accueillent les nouveaux embauchés, soit effectivement au début de leur formation, quand ils arrivent, pour une formation relativement rapide. Et puis on a des parcours de formation tout au long aussi du cycle d'apprentissage, quand on veut se spécialiser sur des métiers de l'électronique, de l'électricité, de la plomberie, de la mécanique, etc. Et puis comme c'était pas suffisant, on a aussi développé des partenariats avec des centres de formation du tissu vendéen, la MFR de Saint-Gilles sur les métiers du composite, l'AFPA à La Roche-sur-Yon sur les métiers du composite aussi, l'AFPIA à Montaigu sur le bois, etc.
Donc la clé, c'est un dialogue direct entre les formations professionnelles et les entreprises.
Et tout à fait.
Un tout petit mot, Laurent Soulard, et puis on écoutera une des personnes qui a rencontré Mathieu.
Précisément, pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, ce sont sur le territoire des Herbiers environ 700 demandeurs d'emploi qui accèdent à la formation, avec un taux de retour à l'emploi de 70%. Nous le mesurons tous les mois. Je ne connais pas d'autres dispositifs, de meilleurs dispositifs d'accès à l'emploi. 70% de
retour. La question des hausses de salaire est-elle posée au micro de Maxime Debs, Julie, qui travaille dans l'une des 18 agences d'intérim de la région?
Et est-ce que les entreprises manquent de compétitivité là-dessus? En tout cas, le secteur vendéen n'est pas connu non plus pour avoir des salaires très très élevés. Du coup, elles augmentent leur salaire, par exemple, pour être plus compétitives par rapport à un concurrent. Elles offrent plus de formation pour justement garder ces candidats qui sont bons, quoi. Et oui, là, dernièrement, on constate plus de CDD et de CDI quand même, plus de contrats longs. Elles jouent le jeu.
Calix de la Martinière, si Pascal, qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage dans l'usine, qui est là depuis 23 ans, qui a des compétences ultra précises, qui connaît le métier par cœur, si Pascal vous dit « petite hausse de salaire, j'ai rien contre », qu'est-ce que vous lui répondez? Vous ne pouvez pas lui dire non? Dans le contexte actuel.
Dans le contexte actuel, en plus, on a une forte pression générale sur le pouvoir d'achat. On sait que c'est un sujet sur lequel on va devoir travailler avec nos partenaires, notamment dans les négociations qu'on va ouvrir le mois prochain.
Après, donc il y a des négociations annuelles. Il n'y a pas des négociations spécifiques, mais voilà,
c'est effectivement le sujet du moment.
Et vous savez que vous allez devoir ouvrir le porte-monnaie pour attirer plus de main-d'œuvre.
On sait que c'est un sujet qu'on va devoir travailler, mais l'attractivité, on est aussi convaincu que ce n'est pas qu'une histoire de rémunération. Mm-hmm. Les rémunérations dans le groupe Beneteau
c'est ce que disent les patrons qui veulent pas donner de sous.
Sont plutôt déjà bien positionnés. En fait, parce qu'on est sur des métiers qualifiés, le salaire à l'entrée chez nous, c'est de l'ordre de 1 800 € brut par mois, oui. Et on est sur 13 mois. Donc en fait, ramené sur 12 mois, on est plutôt de l'ordre de 2 000 € brut, ce qui fait un salaire à l'embauche significativement au-dessus du SMIC, parce que ce sont des emplois qualifiés.
Et on évolue comment? Pascal et ses 23 ans de maison, il évolue comment?
C'est une très bonne question aussi, parce qu'effectivement, on a des dispositifs qui valorisent l'ancienneté. On peut avoir jusqu'à 15% de rémunération supplémentaire grâce aux années d'ancienneté qu'on acquiert au sein du groupe Beneteau. Et puis on a aussi un système de classification qui est très important et très intéressant, parce que au fur et à mesure de sa carrière, un opérateur va choisir de se spécialiser soit sur certains métiers, il va devenir expert, et là, petit à petit, il gagne des éléments de rémunération complémentaires. Et puis aussi, un autre truc qui est très intéressant, c'est que nous, on a des parcours très ouverts sur la mobilité aussi managériale. Il y a certaines industries, l'automobile par exemple, où
Laurent Soulard de Pôle emploi qui fait...
On ne devient pas manager,
qui valide.
On ne devient pas superviseur si on n'est pas Bac plus 5. Chez nous, ce n'est pas du tout ça. Chez nous, c'est ceux qui deviennent superviseurs, c'est ceux qui ont envie et qui sont bons.
Aymeric Petit, qu'est-ce que vous faites pour attirer ces salariés très précis dont vous nous parliez tout à l'heure, dont vous avez besoin?
On essaie de communiquer au maximum, comme aujourd'hui. On cherche...
Mais pardon, ça suffit pas.
On cherche la perle rare. On contacte de nombreux... Là, j'ai des postes en électronique, en IT.
Mais vous ne faites pas un effort supplémentaire, qu'il soit salarial, soit dans les conditions de travail, qu'il soit...
Alors si, aujourd'hui, quand on a un échec de négociation, c'est rare que ce soit dû à des éléments de salaire. C'est dans la majorité des cas, et j'ai encore eu le cas en début de semaine, c'est lié à une mobilité sur le territoire.
C'est-à-dire
on a beaucoup de jeunes qui refusent de venir travailler sur les Herbiers parce qu'on n'est pas assez connecté aujourd'hui avec le milieu urbain.
Oui.
On n'a pas de moyens de transport.
Cholet, ville moyenne qui fait 60 000 habitants, Cholet, est à une demi-heure de route. La Roche-sur-Yon, à peu près la même chose, est à 40 minutes de route.
C'est ça, mais on est encore un peu...
On est trop à la campagne pour beaucoup de gens, pour dire les choses directement.
Et notamment pour les jeunes. Ça, c'est vraiment un point bloquant et... C'est vrai que...
Laurent Soulard, est-ce que vous travaillez là-dessus? On en parlera avec la maire Véronique Besse. Mais...
Oui, bien sûr. Le seul fait de diffuser et le fait de diffuser les offres d'emploi, de les relayer, connectez-vous sur pôle-emploi.fr. Mais votre revenu, aujourd'hui, nous fournit l'occasion de mettre en valeur le territoire et peut-être donner l'envie à des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, des futurs candidats, de venir ici travailler sur les Herbiers. Pôle emploi accompagne cette mobilité résidentielle pour un peu... qu'elle soit choisie, mûrie, précisément accompagnée. Et vous évoquiez tout à l'heure des expériences ici ou là d'aller
capter. Oui, racontez-nous ça en détail, parce que c'est intéressant, ça raconte quelque chose.
Nous entendons au quotidien, mon équipe, et à l'écoute des entreprises qui sont sur le ici et maintenant, le court terme, des besoins de recrutement tout de suite, et qui peuvent essayer d'aller chercher comme ça parfois des coûts marketing des candidatures hors territoire. Moi, je considère qu'on ne déplace pas les personnes au gré de nos besoins. On ne les déracine pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, la dernière expérience à laquelle vous faites allusion, quelques mois après la venue des
c'était
personnes
quoi, c'était
du Nord...
C'était quoi ? C'était des groupes de gens du Nord
Une entreprise avait fait le choix d'aller sourcer des candidatures dans le département du Nord et ça lui appartient, c'est tout à fait respectable. Mais quelques mois plus tard, les personnes qui étaient venues travailler en Vendée sont reparties. Parce qu'on ne déplace pas... Parce qu'il faut aussi accompagner la mobilité des familles. Les personnes... et n'oublions pas que nous avons aussi un rôle... citoyens qui nous engagent, un dépassement de fonction. À chaque fois que nous accueillons des familles venant d'autres territoires, ayons bien à l'esprit que sur ce territoire-là, en l'occurrence, peut-être une classe va fermer, peut-être un territoire ou un village va s'appauvrir. Ayons bien ça à l'esprit. On ne déplace pas les gens comme ça au gré de nos besoins.
Maxime Debs, le logement.
Oui, le logement, hein, c'est un vrai sujet ici. Et pour se rendre compte de cette situation, on a pris la direction d'un foyer de jeunes travailleurs, pas tout près du centre des Herbiers, plutôt à 4 kilomètres, où on est tombé notamment sur Morlaix, intérimaire, plutôt content de sa situation professionnelle. De ce côté-ci, aucun souci. Le plus dur était plutôt de trouver un toit.
Trouver un travail, ça, c'est pas un problème. Mais après, pour trouver un appartement sur les Herbiers, c'est très compliqué.
Et ça, aux Herbiers, tout le monde vous le dit, hein, le territoire est accueillant. Mais petit, on y vient volontiers, à condition de pouvoir s'y loger. Constat partagé chez le fabricant de meubles Gauthier. Loïc Plante-Rose en est le délégué CFDT.
Il y a beaucoup de jeunes, soit en apprentissage, soit en alternance. Et bien, quand ils veulent venir travailler, ils sont confrontés à un manque de propositions pour avoir des logements. Et quand ils en trouvent avec des prix relativement élevés pour les revenus qu'ils peuvent avoir. Des simples studios qui peuvent atteindre 500 euros pour un salaire de 75% du SMIC, vous voyez ce que ça donne. Et puis s'il y a des personnes qui veulent venir d'autres régions que notre bassin d'emploi, il y a quand même un frein.
Un frein d'autant plus fort, là encore post-Covid, avec les habitants des villes en recherche de calme à la campagne. Fabrice Abraham dirige l'agence Ma Compagnie Immobilière en centre-ville.
Sur la ville des Herbiers, il y a 170 emplois pour 100 habitants, 8 demandes pour un logement. C'est-à-dire que nous en voyons beaucoup qui ont décroché un CDI ici, mais sont dans des terrains de camping ou logés de façon précaire dans des Airbnb. Alors nous en sommes conscients, il y a des projets privés, publics, qui verront le jour. Le problème, c'est que ces projets, c'est un temps long, alors que le problème est un problème du moment.
Situation d'autant plus frustrante, dit-il, que sans ça, on serait sans doute réellement au plein emploi.
Véronique Besse, la maire des Herbiers, nous a rejoint. Bonjour madame.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que maire, pour développer l'offre de logements qui permettrait d'attirer davantage de main-d'œuvre et de salariés dans la région des Herbiers ?
Écoutez, c'est le défi de notre mandat. C'est une préoccupation au quotidien pour répondre aux attentes de nos entreprises qui, comme ça vient d'être dit... relève ce problème là aussi au quotidien. Donc,
on se dit qu'il y a du foncier ici.
Alors, oui et non. En fait, le foncier est assez rare et en plus, il est cher. Donc, c'est un petit peu la course.
Il est rare, même ici.
Même ici.
En pleine campagne,
parce
si j'ose dire.
En fait, on est très contraint, en fait, parce qu'on a un carcan administratif qui nous contraint. On a un PLUIH qui est en cours.
Ça me fait peur, ça.
C'est un plan local d'urbanisme intercommunal.
Donc, vous n'avez pas beaucoup de foncier à votre disposition.
Non, on n'a pas beaucoup de foncier. Et on a aussi des promoteurs qui voient bien qu'ici, c'est un peu la poule aux œufs d'or au niveau du foncier. Donc, ils font quelquefois de la surenchère auprès des privés. Donc, nous, la mairie, on essaie aussi d'exister au milieu de tout ça pour récupérer un certain nombre de terrains, mais on est aussi contraint par une certaine administration qui nous oblige à rester dans un périmètre.
Donc vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est ça ?
On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais quand on l'a, on essaie vraiment d'avoir toute la palette de logements, le locatif, l'accession à la propriété.
On est sur une terre de propriétaires et donc les gens qui peuvent venir pour un contrat ponctuel ou sans être sûr de rester recherchent du logement locatif et il n'y en a pas beaucoup dans le coin.
Il n'y en a pas beaucoup dans le coin, donc on essaie vraiment d'avoir toute la palette, le locatif, l'accession à la propriété, la petite maison, parce que c'est très culturel chez nous. Le Vendéen, il aime bien avoir sa petite maison avec son bout de jardin. Le collectif aussi, parce que maintenant on nous demande de construire plutôt en hauteur, donc ça aussi c'est une contrainte, parce qu'encore une fois il faut faire de la densification. Donc, mais c'est un sujet vraiment préoccupant pour nous, et c'est notre sujet du mandat, notre défi du mandat.
Les transports, est-ce que il y a une gare aux Herbiers ?
Il y a une gare, mais il n'y a pas encore le train. Mais ça va venir, en fait. On essaie
donc,
là aussi d'accompagner.
Si on veut venir ici, c'est voiture, ou autocar.
C'est voiture ou train jusqu'à Cholet et après location de voiture ou taxi.
C'est un problème.
C'est un problème et c'est pour
ça qu'on se bat
avec la région. On a relancé le dossier avec la région et le département de la Vendée. On est sur un retour du train parce qu'il est arrivé
c'est
il y a
quelques
mode. Ans. C'est à la mode. Donc là, c'est aussi des enquêtes, etc. pour voir si c'est viable. Mais on aura, je pense, le train. Moi, j'y crois beaucoup. D'ici quelques années aux Herbiers pour effectivement faciliter l'accessibilité pardon, à la ville.
Alors cela dit, il y a route et quatre voies beaucoup en Vendée, ça fait partie du modèle. Je voudrais qu'on prenne les minutes qui viennent pour essayer de creuser ce 4,1% de chômage. Alors, une des clés, Calix de la Martinière, il y a ici des capitaines d'industrie. Qui ont des entreprises familiales, mais des grosses entreprises, prenons Fleury Michon pour parler d'autre chose que de Beneteau, qui ont du coup beaucoup de sous-traitants à leur service, qui créent beaucoup d'emplois. C'est ça une des clés déjà du modèle ici.
Absolument. Ce sont beaucoup de groupes de taille moyenne, des capitaines d'industrie qui sont implantés durablement dans le territoire vendéen, qui font vivre tout un réseau de sous-traitants et qui sont capables d'investir avec une perspective à long terme. Nous, chez Beneteau, on a investi il y a, en 2019-2020, on a investi 15 millions d'euros à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour agrandir l'usine.
Oui.
On a investi cette année 5 millions d'euros à Cholet pour moderniser l'usine.
Vous avez fermé deux sites quand même en Vendée.
Oui, mais ça participe de la même logique. C'est-à-dire qu'on veut préserver et développer l'emploi durablement. Et c'est pour ça que ces sites, on a fermé deux sites, mais quand on a fermé les sites, on n'a supprimé aucun poste d'opérateur. On a créé exactement le même nombre de postes d'opérateurs dans d'autres sites du groupe Beneteau parce qu'on voulait préserver ces compétences-là.
La question que je me pose, Laurent Soulard, peut-être, qu'est-ce qui, dans le modèle ici, aux Herbiers, alors, des grosses entreprises qui, du coup, ont une myriade de sous-traitants, des relations très fluides entre les entreprises et Pôle emploi et les organismes de formation, qu'est-ce qui est duplicable au reste du territoire? Parce qu'au fond, on est dans une campagne présidentielle où la notion de souveraineté économique et de made in France est clé. Et là, on se dit qu'on a peut-être un modèle et des choses à creuser.
Moi, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour évoquer les marqueurs ou les valeurs du territoire. Au moins, je peux vous en proposer une, c'est le dépassement de fonctions et la capacité à jouer collectif. Vous savez, l'agence Pôle emploi est adhérente. Par exemple, c'est une particularité de l'association de chefs d'entreprise du territoire. Nous avons ici un réseau de 150 dirigeants d'entreprise, dirigeants et dirigeants d'entreprise, entreprises du pays des Herbiers, l'association qui irrigue le territoire et qui met en réseau les chefs d'entreprise. Nous en sommes adhérents parce que je considère que on ne peut pas agir sans se côtoyer, sans se connaître. Et c'est à l'aune de ces travaux que nous avons travaillé et nous avons mis en place un grand salon de l'emploi en 2018. Avec l'association et la collectivité locale. Et je peux vous dire aujourd'hui que, je vous fais un scoop, nous avons déjà pris rendez-vous pour une deuxième édition qui a été retardée, décalée du fait du contexte sanitaire, mais nous allons remettre en place un deuxième salon de l'emploi du Bocage.
Émeric Petit, puis Véronique Besse, même question. Qu'est-ce qui est duplicable dans ce qui se fait aux Herbiers et qui peut exister ailleurs et qui nourrirait ce débat du made in France et de l'industrie en France?
Bon, pareil, nous, en termes de... Je crois que c'est la confiance entre les employeurs et les salariés. Je crois que les
On dit qu'il y a un modèle un peu paternaliste. On en parlera avec notre dernier invité, qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats et que, voilà, du coup, on a des salariés assez dociles et que ça aide aussi au modèle.
Oui, je crois que les entrepreneurs offrent la possibilité, projettent sur du long terme ont des projets sur du long terme pour au sein de leurs entreprises. On a la chance aussi d'avoir des salariés qui sont positifs au quotidien, qui sont investis, qui adhèrent aux projets d'entreprise, qui quelle que soit la position de chacun dans l'entreprise, je crois que chacun a la volonté de chaque jour d'amener sa petite pierre à l'édifice.
Véronique Bess, sur cette question.
Moi, je crois que c'est avant tout un état d'esprit qui est très particulier chez nous et qui peut peut-être se dupliquer ailleurs. En fait, c'est on se côtoie, on se connaît. Donc tout va vite en fait. Il n'y a pas de entre nous, on se voit souvent. Il n'y a pas de chichi, si je puis dire. On se parle des problèmes et des projets. Quand je dis ça, c'est nous les élus avec les chefs d'entreprise, avec Pôle Emploi. Et donc les choses vont vite pour notamment les projets. Il y a une confiance mutuelle aussi entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Donc là aussi, ils se parlent parce qu'ils se côtoient aussi à l'extérieur. Parce que les sièges sociaux, pour la plupart, sont vendéens. Donc les salariés ont grandi sur le même banc d'école que le patron. Donc quand il y a une difficulté, on se parle. Et puis il y a un sentiment d'appartenance très fort des salariés à leur entreprise.
Calix de la Martinière sur cette question. Oui. Qu'est-ce que vous dites au fond ? Alors on s'en fiche du droit de gauche, mais d'un Arnaud Montebourg qui va prôner le Made in France à un Emmanuel Macron qui a défendu lors du... Ah ben voilà, on est.
Voilà, ça continue.
C'est quoi ? C'est la reprise du travail, absolument. Ça peut-être sur des chaînes de production. Qu'est-ce que vous leur dites, partant de Vendée, sur le Made in France, la souveraineté économique ?
Non, mais on dit que c'est possible, c'est sûr qu'on est capable de faire du Made in France qualitatif, en valorisant la fierté qu'on a pour nos produits. Nous, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit ici qui est absolument exceptionnel. Nous, on a vécu une année 2021 catastrophique avec une cyberattaque, puis des gros problèmes liés à la crise de la supply chain. Et moi, j'ai compris cette année, en Vendée ici, le sens du mot résilience. C'est très impressionnant, le collectif qui s'est soudé pour, dans les difficultés, dans l'adversité, emmener l'entreprise plus loin.
Merci à tous les quatre d'être venus au micro de France Inter aujourd'hui ici. Dans ce magnifique site des chantiers Jeannot, groupe Beneteau, dernier invité de ce 13-14. Bonjour Jonathan Semelin.
Bonjour.
Secrétaire départemental de la CFDT en Vendée. Sur cette question des salaires, que dites-vous, vous ? Parce que on a compris que même s'il y avait pénurie de main-d'œuvre, il n'y aurait pas de hausse de salaire, peut-être parce que les chefs d'entreprise autour de cette table se disent qu'il n'y a pas de marge. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Alors sur le niveau des salaires et le niveau des rémunérations en Vendée, il y a un sujet. Clairement, parce que l'INSEE place le département de la Vendée en 83e position en termes de niveau de salaire par rapport aux autres départements de France. Donc on est quand même sur des bas salaires, globalement. Moi, j'ai des exemples très concrets dans certains secteurs. Si on prend l'exemple de la métallurgie, où le minima conventionnel se négocie à l'échelle du département. Cette année, par exemple, il y a eu un échec des négociations, parce qu'effectivement, les organisations patronales n'ont pas voulu aller suffisamment loin en termes de reconnaissance salariale, alors que les besoins de recrutement sont là. Ça peut être le cas aussi, je prendrai l'exemple du secteur de la transformation agroalimentaire. On a des gros groupes en Vendée. Oui. J'ai un site, par exemple, qui a 10 kilomètres.
Les autres.
Voilà, où le groupe LDC est arrivé, où il y a des négociations salariales qui vont démarrer. Moi, les équipes syndicales me disent déjà aujourd'hui que ça s'annonce difficile. Il y a pas, l'employeur ne va pas forcément sur des négociations salariales, mais sur propose des primes. Et c'est pas forcément ce qu'attendent les salariés.
C'est un département où, alors CFDT, on rappelle, c'est le premier syndicat de France. C'est un département où vous avez moins de poids qu'ailleurs, vous, les syndicats.
Alors on a du poids, on a du poids quand même, surtout que la CFDT, c'est vrai qu'on est fortement majoritaire. Après, il y a des grosses entreprises où effectivement on a du mal à s'implanter, où les organisations syndicales ne sont pas forcément les bienvenues. C'est pas forcément qu'on veut pas nous, mais il y a eu un mode de fonctionnement, comme ça a été dit tout à l'heure, où finalement employeurs et salariés peut-être s'y retrouvent. En Vendée aussi, il y a un très fort tissu économique composé de très petites entreprises, où là, effectivement, il n'y a pas de possibilité de représentation des personnels.
Sur ce cas particulier des herbiers, est-ce que toute la Vendée est à la même aune, si j'ose dire, ou est-ce qu'il y a des zones en Vendée beaucoup plus sinistrées ?
Il y a des zones plus sinistrées. Je prendrai l'exemple, effectivement, du sud Vendée, sur le secteur de Fontenelle-Comte, où on n'est pas... c'est pas un bassin d'emploi qui est aussi dynamique industriel, et il y a même plutôt une désertification industrielle.
Une question d'actualité encore, la réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur, au grand dam des syndicats. Un, est-ce que voilà, elle a les effets délétères que vous avez redoutés au départ ? Et deux, est-ce que malgré tout, elle incite déjà des gens à reprendre le travail, puisque c'est l'argument qu'elle utilise ?
Alors les effets délétères, c'est un petit peu difficile à dire aujourd'hui, puisqu'elle est entrée en vigueur concrètement sur le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence au 1er octobre. Par contre, c'est vrai qu'il faudra en faire le bilan dans quelques mois. La CFDT, elle reste clairement opposée. Alors déjà, sur sa philosophie, puisqu'en fait elle repose sur l'idée que finalement le chômage serait un choix, et aussi parce qu'on considère que c'est une réforme qui est totalement déséquilibrée, puisque les efforts sont portés uniquement sur les demandeurs d'emploi.
Merci Jonathan Semelin d'être passé au micro de France Inter. Calix de la Martinière, je peux pas m'empêcher de vous demander, 83e dans le classement des salaires, la Vendée. Alors, oui, oui. Vous allez dire sur CFDT, tout ça, mais tout de même, il y a souci.
C'est une question qui se pose, alors qu'elle se pose probablement différemment selon les industries, selon les groupes en Vendée.
Vous dites quoi ? J'ai pas les marges pour augmenter les salaires.
Je dis pas ça. Et d'ailleurs, j'ai pas dit qu'on allait pas augmenter les salaires cette année. Sinon, je me ferais triper là dans un mois. Non, bien sûr, mais on va discuter avec les partenaires sociaux. L'important, c'est de trouver un modèle économique qui fonctionne durablement. Et il y a de la place pour augmenter les salaires. Il y a une pression forte liée au pouvoir d'achat ici en Vendée comme partout ailleurs, donc on va discuter.
Merci à tous d'être venus au micro de France Inter. Une dernière histoire pour conclure cette émission ici aux Herbiers. Le cinéma de la ville, Madame la Maire, qui s'appelle Le Grand Écran, a une histoire particulière depuis plus de 20 ans. Ce sont des bénévoles, une soixantaine d'habitants, qui le font tourner, l'accueil, la billetterie, la projection, la programmation, la formation des jeunes qui prennent le relais au fil des années. C'était il y a 20 ans le seul moyen de le garder ouvert à l'époque. Et la petite entreprise a bien prospéré. Là aussi, elle a désormais un directeur, deux salariés et elle va bientôt gérer un multiplex. Discussion hier soir avant la projection de James Bond avec le président de l'association Moïse Mindron, la vice-présidente Françoise Leray et celui qui est désormais le directeur, Rodolphe Merlet. Françoise appelle les deux garçons les petits jeunes parce qu'elle les a vus arriver presque gamins.
Bonjour,
une place pour James Bond, s'il vous plaît.
Merci. Voilà votre ticket, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Combien de places dans la salle? Elle est immense.
376 places.
Comment est né ce cinéma?
En fait, la plupart du temps, c'est toujours à peu près la même histoire. C'est que quand on regarde les cinémas associatifs, on n'est pas les seuls cinémas associatifs, il y en a plusieurs. La plupart sont des tout petits cinémas qui ne sont pas rentables pour des entreprises privées, en fait. C'était le cas il y a maintenant plus de 20 ans au Herbiers. Il y avait un cinéma qui était privé, qui n'était pas rentable. La ville a décidé de le racheter. Et en fait, s'est montée à ce moment-là une équipe de bénévoles pour en assurer la gestion, pour continuer à faire vivre le cinéma, pour pas qu'il meure en fait.
Parce que sinon, si on veut aller au cinéma, s'il n'y en a pas aux Herbiers, où est-ce qu'il faut aller?
Il faut aller...
Cholet, c'est quoi? C'est une grosse demi-heure de route?
Oui, c'est ça. Ouais. La Roche-sur-Yon.
Et pareil, La Roche, c'est même un peu plus, 45 minutes de route.
Voilà, c'est ça.
Donc il y avait un vrai enjeu pour les habitants des Herbiers.
Absolument.
S'il n'y avait plus de cinéma ici, c'était ou une demi-heure, voire 45 minutes de route.
C'est ça. Et pour une commune de 15 000 habitants, ça serait quand même dommage de ne pas avoir son propre cinéma.
Et là, aujourd'hui, il est rentable?
Ah oui, on fait 60 000 entrées avec une seule salle.
Je ne me rends pas compte, 60 000 entrées annuelles avec une seule salle.
Voilà,
c'est remarquable.
On fait partie des 10 meilleurs cinémas pour une zone équivalente. Une zone urbaine de 15 000 habitants, on fait partie des 10 meilleurs cinémas en France.
Bonjour, une place pour James Bond, s'il vous plaît.
Votre sanitaire, s'il vous plaît.
Il y a beaucoup de familles dont les jeunes sont passés par le cinéma. Et notamment, ces deux jeunes ont commencé au cinéma, ils avaient 14 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, il y en a un qui est président et l'autre qui est directeur.
Et alors, je vais me tourner vers le directeur, Rodolphe. Donc, comme l'entreprise, entre guillemets, marche bien, désormais, il y a vous comme directeur et deux salariés parce qu'il y avait besoin de gens à plein temps et salariés pour faire tourner la boutique.
Voilà, passer d'un cinéma, d'une salle, à un multiplex de cinq salles, c'est plus la même chose.
Alors voilà, parce que c'est ça l'information, c'est que maintenant, il va y avoir dans la ville, à un autre endroit, un multiplex de cinq salles, c'est ça?
Voilà, et avant, l'association n'avait pas la possibilité d'avoir plus qu'un salarié. Et désormais, évidemment, pour un cinéma de 125 salles et qui va faire 120 000 à 150 000 entrées, il y a besoin d'une équipe un peu plus conséquente au niveau administratif, au niveau animation, au niveau gestion, comptable. Il y a 21 ans, le cinéma, il faisait, quand on l'a repris, il faisait 12 000 entrées par an. Il est passé à 15 000, 20 000, 35 000. Et avec le travail de tous ces bénévoles pendant 20 ans, il est arrivé à 60 000 entrées. Et c'est ça qui fait, qui a prouvé aussi à les municipalités qu'il y avait une demande, une attente des spectateurs. Et c'est ce qui fait que l'association peut s'engager dans un projet qu'elle... C'est quand même une association qui emprunte 2,5 millions d'euros pour créer un complexe de 4 salles en association avec la ville.
Vous pouvez prendre votre ticket, vous pouvez aller voir le spectacle. Merci, bonne soirée.
Moïse, juste un petit mot. Je regarde les tarifs, 6,50 tarifs normaux, 5,50 tarifs réduits. Vous avez des tarifs plus bas qu'ailleurs?
Eh bien, c'est le fait d'être associatif, du coup, parce que pour nous, c'est important aussi de donner un accès privilégié aux films, aux Herbretais. Et donc, comme on a moins de charges, parce qu'il y a des bénévoles, on peut se permettre de proposer des tarifs accessibles.
Et vous n'avez pas d'objectif de rentabilité aussi fort qu'un cinéma privé?
Non. Il faut quand même être à l'équilibre.
Ouais.
Et puis maintenant, avec le complexe, il faut quand même qu'on ait, une certaine rentabilité pour pouvoir financer le projet, mais effectivement, on n'a pas cette épée de Damoclès de rentabilité auprès d'un patron ou de... Voilà.
Véronique Besse, Madame la Maire des Herbiers, on parlait d'attractivité de la ville, ça passe aussi par là. On est à une grosseur d'Angers, une grosseur de Nantes qui ont toute l'offre culturelle nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a aux Herbiers pour les 16 000 habitants comme offre culturelle?
Alors déjà, il y a 300 associations, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec ces associations. Mmh. Et on peut aussi être dans la culture avec un théâtre de 460 places. Il y a une tour des arts pour avec une école de musique, une école de danse. Mmh. Et puis, il y a le futur Grand Luxe, qui est le nom du futur complexe cinématographique 5 salles d'ici la fin de l'année.
Début décembre,
mi-décembre.
Dans un instant sur France Inter, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Et bonjour Bruno.
Quel est le programme, cher Mathieu ?
Eh bien, nous allons parler de la mer au temps des dinosaures.
À tout de suite pour la mer au temps des dinosaures.